Brouillon de lecture. Brouillon de lecture, votre émission mensuelle sur la lecture. L'idée, c'est de vous lire des extraits d'un livre de façon à vous le faire aimer et à vous donner l'envie de le lire à votre tour. Pour ça, nous avons deux lecteurs professionnels qui viennent régulièrement nous lire des extraits de romans ou de nouvelles. Exceptionnellement, ce mois-ci, nous n'aurons qu'une seule lectrice. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Hervé nous a lâchement abandonnés, mais ça ne nous empêchera pas de nous faire, faire découvrir à nos auditeurs un nouveau livre. Alors, cette fois-ci, tu as choisi ?
Alors, j'ai choisi un auteur connu, Laurent Godet,
effectivement,
qui a déjà écrit une dizaine de romans, 10 d'ailleurs. Je crois que son dernier roman est sorti en 2018 et s'appelle Salina, les trois exils.
Il a été primé plusieurs
fois. Alors, il a été primé je crois que c'est son deuxième roman, La mort du roi de Sancor, qui a eu le Goncourt des lycéens. Et en 2004, Le soleil des Scorta, qui a obtenu le prix Goncourt.
C'était 2004 ?
Ouais.
Ah oui.
Et oui.
Ah oui, c'est déjà.
Donc, il écrit depuis 2001 des romans. Donc, en 17 ans, il a écrit 10 romans, c'est pas mal. Mais il n'écrit pas que ça. Il a d'ailleurs commencé par écrire des pièces de théâtre. Et il a également, et c'est pour ça que je vais lire du Laurent Godet aujourd'hui, il a également publié 2 recueils de nouvelles, Dans la nuit Mozambique et Les oliviers du Négus. Alors, on voit au nom de ces romans, il a 2 pays de prédilection, l'Italie et surtout l'Afrique. Et il faut dire que l'art de Laurent Godet, c'est nous faire ressentir tout de l'Afrique, la chaleur, les odeurs. Donc, il a une langue superbe. J'espère que vous allez l'apprécier à travers mes mots. Voilà. Donc, j'ai choisi un recueil de nouvelles. Alors, ce recueil de nouvelles.
Tu as définitivement adopté les nouvelles, alors.
Les nouvelles, c'est vrai que c'est peut-être une solution, entre guillemets, de facilité, puisque je n'ai pas à couper, en général.
Ce qui n'est pas facile.
Parce que c'est pas facile de couper. Et je raconte une histoire complète, mais ce n'en est qu'une parmi d'autres. Donc, l'idée, c'est quand même de donner envie aux auditeurs d'aller se plonger dans les nouvelles de Laurent Godet.
Voilà,
d'ailleurs, même son, pas le dernier, c'est un roman en 2018, mais en 2017, il a publié un recueil de poésie. Et en fait, quand on le lit, c'est comme des courtes nouvelles où il parle de ses exilés, de ses immigrés, mais que ce soit l'Afrique, le pourtour méditerranéen ou le nord de la France. Il rencontre ses hommes et ses femmes un peu partout sur beaucoup de territoires qui sont pas très loin de nous.
Très voilà. Bien. On y va ?
On y va.
Allez.
Sans négrier. Sans avec un G. Sans négrier.
S-A-N-G.
Voilà. Vous me dévisagez. Vous avez peur. J'ai quelque chose de fiévreux dans le teint qui vous inquiète. Je souris, je tremble. Un homme brûlé, pensez-vous. Je ne lève pas les yeux. Je sursaute souvent au moindre bruit, au moindre geste. Je suis occupée à lutter contre des choses que vous ne voyez pas, que vous seriez même incapable d'imaginer. Vous me plaignez, et vous avez raison. Mais je n'ai pas toujours été ainsi. Je fus un homme autrefois. Aujourd'hui, quand j'y repense, malgré les années qui ont passé, malgré mon esprit rongé par les cauchemars et les peurs vénéneuses, malgré cette méfiance dévorante qui me fait fuir la compagnie des hommes, aujourd'hui je sais que c'est ce jour où nous avons commencé à devenir fous sans même nous en apercevoir. Nous sommes entrés dans une nuit qui allait nous emporter les uns après les autres. Et depuis ce jour, Je m'en rends compte maintenant, même si mon esprit est troublé, ils le disent tous, ceux que je croise dans les rues et qui parlent à mon pastage. Depuis ce jour, oui, la vie ricane dans mon dos. Elle me tord, m'inquiète et me prive de sommeil. Je ne suis plus ce que j'étais. Je fais peur. J'ai des yeux de chat et une maigreur de phtisique. Aujourd'hui, pourtant, bien que je sois fou, comme ils le disent, et je ne leur donne pas tort, tant je sens en moi d'agitation et de terreur, aujourd'hui, je revois tous ces instants avec clarté. Commandant, il en manque 5. C'est là, lorsque cette phrase a été prononcée, que tout a commencé. L'homme qui se tenait devant moi s'appelait Krombeck. C'était un vieux capornier à qui un cordage un jour de tempête avait arraché une oreille. Il me fixait avec un air d'enfant fautif, le regard bas, la moue boudeuse. Il ne m'avait pas appelé capitaine pour bien me faire sentir qu'à ses yeux, je n'étais que le remplaçant provisoire du vieux Bressac. Un second promu par les aléas du sort, rien de plus, pas un vrai capitaine, pas encore. « Comment ça, 5 ?» dis-je avec stupéfaction. « On a recompté 3 fois, répondit-il avec calme. C'est certain, il en manque 5. » Je me mordis les lèvres. 5 nègres s'étaient échappés de notre navire. 5 nègres sortis du port qui couraient sûrement maintenant dans les rues de la ville. Ils allaient profiter de la nuit pour piller, violer ou faire Dieu sait quoi. À cet instant, je sentis que quelque chose venait de naître qui allait nous échapper. Quelque chose de pénible dont nous ne parviendrions pas à nous défaire. Les courants du sort avaient décidé de jouer un peu avec nous et il allait être difficile de s'y soustraire. « Foutre Dieu !» dis-je, et je me précipitai vers le navire pour rameuter tous les matelots. Tout avait commencé à Gorée, au large du Sénégal, lorsque le capitaine Bressac eut la mauvaise idée de mourir. Nous y mouillions depuis 12 jours, le temps d'acheter le bois d'ébène et de le charger à bord. Nous nous apprêtions à partir pour l'Amérique, comme nous l'avions fait tant de fois auparavant, mais Bressac tomba malade. Je pris provisoirement les commandes. Les choses étaient simples, il suffisait de superviser les dernières manœuvres de chargement. Pendant 3 jours, il ne quitta plus sa cabine. On parla d'abord d'une légère indisposition, puis de fièvre. Puis personne ne parla plus de rien. Le médecin que nous appelâmes monta à bord d'un air las et ne quitta plus la cabine. Lorsqu'il en ressortit le soir du 3e jour, ce fut pour nous annoncer la mort du capitaine. La fièvre l'avait bouffé de la tête aux pieds. Il ne restait plus qu'un corps maigre dans des draps salis de sueur. Bressac est mort. C'est à moi qu'il revenait d'assurer le commandement. Il ne fallait pas perdre trop de temps à achever le chargement du navire le plus vite possible et quitter l'Afrique pour laisser derrière nous la fièvre accrochée aux côtes comme la brume aux rochers les jours de touffeur. Aujourd'hui, je m'étonne de ne pas avoir senti que le malheur rôdait autour de nous, que c'était lui qui provoquait ces aléas, que c'était lui encore qui suscitait nos décisions. Nous aurions dû nous méfier de nous-mêmes, mais nous n'en fîmes rien. Nous étions encore à l'époque des hommes rudes que le vent n'intimide pas. Je pris les commandes. Personne n'eut rien à redire à cela. C'était bien. Du reste, la mort du capitaine n'avait pas affecté les hommes. Ils étaient habitués. Le scorbut accompagnait les navires comme les cormorans accompagnaient les pêcheurs dans la baie de Cancale et faisait mourir les équipages sans discernement. Mais je fis une erreur qui scella tout. Je ne sais pas comment cette idée a pu naître en moi. Oh, cela depuis me tourmente. Nous aurions dû réserver au vieux Bressac le même sort que celui qui nous attendait chacun d'entre nous si nous crevions à bord. La mer, rien de plus. Le bruit des vagues pour seule cathédrale. Mais ce n'est pas ce que j'ai ordonné. Peut-être parce que je connaissais le capitaine depuis toujours, peut-être parce que je connaissais sa veuve et qu'il me semblait naturel de lui rapporter le corps de son vieil homme. J'ai ordonné de changer de cap, remonter vers Saint-Malo pour y déposer la dépouille de Bressac et de là continuer notre route vers l'Amérique. C'était de la folie. Mais personne n'a rien dit. Peut-être le sort qui avait affecté mon discernement avait aussi brouillé celui de mes hommes pour que nous plongions tous dans l'erreur avec la même assurance. Ou peut-être qu'au fond, cela les arrangeait, ils allaient revoir leur famille plus tôt que prévu. Aujourd'hui, je suis sûre que le vieux corps du capitaine m'a maudit d'avoir pris pareille décision. La mer, c'est ce qu'il aurait aimé. Revenir à Saint-Malo pour rendre sa dépouille à sa famille était une aberration. Qui, du reste, pouvait bien vouloir d'un corps puant de plusieurs semaines de putréfaction? Nous avons levé l'ancre, l'île de Gorée a lentement disparu, le gémissement des nègres est monté du ventre du bateau. Il faisait toujours cela, gémir lorsque les dernières terres d'Afrique disparaissaient à l'horizon. Nous avions l'habitude, nous ne les entendions même plus. C'est ainsi que nous avons mis le cap sur la France, comme un chien le ferait par automatisme à la mort de son maître. Nous ne nous méfions de rien. Nous chantions sur le pont sans entendre sous nos pieds les dents des nègres qui crissaient et leur front qui frappait le bois des poutres. Après des semaines de navigation, un jour, en fin d'après-midi, nous arrivâmes à destination. Le ciel était bas. Les remparts de la cité nous toisaient avec morgue. Les enfants sur les quais nous regardaient à la manœuvre avec des yeux de flétans. J'ai voulu que la première opération soit le débarquement du cercueil du capitaine. La veuve était là. Elle avait été prévenue et attendait sur le quai, flanquée de ses enfants. Nous avons essayé de faire cela dignement. Personne ne lui a dit que son mari puait dans les cales depuis des semaines, que les nègres au-dessous vomissaient jour et nuit d'avoir à partager leur captivité avec un cadavre. Personne ne lui a dit que le vieux Bressac lui-même avait dû prier dans sa mort pour être jeté par-dessus bord plutôt que de traîner de jour en jour sur les mers du monde. Nous avons descendu le cercueil au rythme lent de la solennité, nous avons fait cela bien. Une calèche attendait, nous nous sommes tous mis à sa suite et nous avons marché à travers les ruelles escortant la veuve et ses enfants. Il y avait là l'équipage entier, bien sûr, mais aussi toute la bonne société de la ville. L'armateur, certains membres de la capitainerie, les nobles, quelques prélats. Nous enterrâmes Bressac sans douleur, avec seulement la tristesse des hommes face à leur finitude. Nous ne nous doutions pas que ces instants étaient les derniers moments de calme que nous connaîtrions. La foule revint du cimetière en petits groupes épars. Nous avions remis nos casquettes et allumé nos pipes. Nous traînions nos sabots en devisant sur cette foutue fièvre qui nous avalait un homme plus rapidement que la mer. C'est alors que nous entendîmes des cris. Une nuée de gamins venait à notre rencontre en hurlant « Ils essaient de s'échapper, ils essaient de s'échapper !» Je compris tout de suite qu'il s'agissait de mon navire. Toute la ville était là. La honte me monta aux joues. Comment était-ce possible? Les nègres étaient sortis? Mais comment avait-il pu s'échapper du ventre du navire? Les voix des gamins continuaient à résonner sur le pavé. Le brouhaha s'emparait de la foule. Je sentis que l'on me tiendrait responsable de tout. Il fallait les calmer, les rassurer, leur montrer que je n'étais pas un écervelé inconséquent. « Je m'en occupe !» dis-je à voix haute, en regardant les visages dans la foule tout autour de moi. Je fais un signe de la tête à mes hommes pour qu'ils me suivent, et tandis que nous étions déjà en train de courir vers le port, je leur lançai avec rage « On va retrouver ces nègres et on va leur faire passer le goût de la liberté. » Lorsque nous arrivâmes sur le quai, c'était un capharnaüm inimaginable. Les badauds se mêlaient aux marins, des enfants mi-effrayés, mi-excités, couraient en tous sens. Les nègres, eux, sans que l'on sache comment, avaient réussi à ouvrir la trappe de la cale et s'étaient précipités sur le pont. Quelques marins des navires voisins, voyant cela, s'étaient immédiatement chargés de les empêcher d'aller plus loin. Un désordre confus s'était ensuivi. Des coups avaient été échangés, on cria, on frappa. Les nègres, encerclés de toutes parts, repoussés sur le pont du navire, devinrent fous et tentèrent de sauter sur le quai, comme des hommes qui sautent dans le vide. C'est à cet instant que nous arrivâmes, juste à temps pour éviter qu'ils ne parviennent à se répandre dans le port comme une volée de sauterelles. Aujourd'hui, quand j'y repense, leur désir de quitter le pont du navire me semble absurde. J'en sourirais presque. Où comptait-il aller ? S'imaginait-il vraiment pouvoir disparaître dans cette ville qu'il ne connaissait pas ? À moins qu'il n'ait pas pensé à tout cela. À moins qu'il ne se soit agi que d'une sorte de réflexe de survie. Quitter ce navire, simplement cela. Quitter ce bateau qui les menait en enfer. Quitter cette cale où ils vomissaient depuis des semaines les uns sur les autres. Descendre, courir droit devant eux. C'est cela sûrement qui les a portés. Mettre le plus de distance entre eux et le bateau. Rien de plus. À notre arrivée, nous nous armâmes de mousquetons. J'abattis aussitôt le premier nègre qui se présenta. Il alla rouler au milieu des autres, le poitrail ouvert. Cela ramena le calme. Plus personne ne bougea pendant quelques secondes. Nous profitâmes de ce moment de stupéfaction pour remonter à bord en poussant de grands cris et en rouant de coups tous les corps que nous pouvions atteindre. Tout fut réglé assez vite. J'étais soulagée. La fuite avait été endiguée. Le pire était évité. Je ne perdais pas la face vis-à-vis des autorités de la ville. Avec un peu de chance même, on louerait la célérité et la poigne avec lesquelles j'avais réglé tout cela. Je ne souris pas longtemps. Krombeck remonta de la cale où il avait été remettre un peu d'ordre. Il était là, maintenant, devant moi, la face taciturne et la lèvre molle. Il venait de m'annoncer qu'il en manquait 5 et attendait que je prenne une décision. Comment cela était possible, je ne le sais pas. Personne n'en avait vu s'éloigner, mais le fait est là, indéniable, comme une vérité arithmétique. Il en manquait 5. Il devait déjà courir dans les rues de Saint-Malo et c'était ma faute. Il allait falloir les traquer, les dénicher là où ils se cachaient. Je descendis du bateau en pestant et à l'instant où mon pied toucha le quai, je jure qu'un long frisson me parcourut le dos. Je sentis que quelque chose venait de s'abattre sur moi qui me poursuivrait toute la vie. Il fallait faire vite. Ma réputation était en jeu. Il me les fallait vivant, sans quoi j'allais perdre de l'argent et on se rirait de moi. Je regardais mes hommes. Je leur en voulais d'être là et de penser ce qu'ils pensaient. Je savais qu'ils se disaient que cela ne serait pas arrivé du vivant du capitaine. Je voyais dans leur regard que pour eux, j'avais le mauvais œil. Alors je serrai les poings et je les exhortai à partir à la chasse. Quelques instants plus tard, nous sortîmes du port comme une meute en colère. C'est moi qui entendis les cris de la foule au loin. « Là-bas » dis-je à mes hommes, et ils tournèrent tous la tête dans la direction que j'indiquais, avec la célérité de chiens de chasse. Des cris retentissaient près des murailles. Nous arrivâmes en courant à la grande porte. La nuit était déjà tombée, mais une foule compacte se tenait serrée au pied des remparts. « Il est là !» dirent plusieurs mégères à notre passage, en montrant le chemin de ronde. Nous montâmes les marches de l'escalier 4 à 4. Le nègre était tapis dans le renfoncement d'une tourelle. Il avait dû essayer de se cacher, espérant qu'on l'oublie s'il ne bougeait plus, mais la foule en bas n'avait cessé de le montrer du doigt. Il était immobile et terrorisé par ces visages blancs tout autour de lui. Nous avançâmes lentement. « Doucement, les gars, dis-je. Il n'y a pas de raison de l'esquinter. » Le nègre sembla comprendre ce que je venais de dire. D'un coup, il se redressa et nous contempla avec de grands yeux. Il nous dominait de toute sa stature. Puis, sans un mot, il se mit à courir, enjamba la muraille et sauta dans le vide. Nous n'eûmes le temps de rien. Juste de le suivre des yeux et d'entendre l'horrible bruit du corps de l'autre côté des murailles qui se disloquait. Je pensais que je venais de perdre un beau sac de pièces d'or. Je pensais à ce gâchis et je donnais un coup de pied dans la pierre. Nous descendîmes les marches et tentâmes de nous frayer un passage dans la foule pour aller récupérer le cadavre. C'est là que le duc m'intercepta. Il était flanqué du chef de la garde royale. « Qu'est-ce que vous faites ? » aboya-t-il. Je commençais à répondre que j'allais régler tout cela très vite, mais il ne me laissa pas poursuivre. « On a vu comment vous réglez tout cela. » Il avait le visage rouge de colère. « Vous croyez que ça fait bonne impression dans les rues, des nègres qui sautent des toits et des murailles ? » J'allais répondre, mais il me fit signe de me taire. « Maintenant, c'est moi qui me charge du problème. J'ai ordonné un couvre-feu. On va les avoir, cette nuit. Et il faut faire cela méthodiquement. » Et comme je tentais de le faire revenir sur sa décision, il m'interrompit avec sécheresse. « Je sais ce que vous pensez, dit-il. Vous avez raison de le penser. Oui, on va les abattre, vos nègres enragés. Vous n'aviez qu'à les tenir plus serrés. Et vous allez même nous aider. J'espère pour vous que nous les aurons avant qu'ils ne fassent trop de dégâts. Car je vous préviens, nous vous tenons pour responsable. Toute la ville vous tient pour responsable de cette horrible mascarade. » Ce faisant, il se tourna vers ses hommes et leur ordonna de disperser la foule. De partout, bientôt, montèrent les cris des gardes qui, en patrouillant dans les rues, répétaient sans cesse « Couvre-feu ! Couvre-feu !» La ville se vida en moins d'une heure. La nuit pesait sur les toits. À chaque carrefour, des gardes se mirent en faction et bientôt des volontaires venus de partout les rejoignirent. J'ai vu de la joie cette nuit-là, je m'en souviens. J'ai vu dans les visages et dans les regards la joie de participer à une grande battue. Il y avait dans les rues de la ville cette nuit-là un bonheur inavoué qui se répandait d'un groupe à l'autre, comme la puanteur d'un poisson avarié. Personne n'osera dire l'excitation qui battait dans nos veines à cet instant. La ville nous appartenait. Nous étions tous armés de bêches, de pioches, de couteaux ou de pistolets. Nous patrouillions en petits groupes à la recherche du moindre bruit, de la moindre silhouette inhabituelle. Personne n'osera dire combien nous avons aimé cela. Et les volontaires étaient toujours plus nombreux. Ils voulaient tous en être, chasser, participer à cette nuit où nous avions le droit de tuer. Le droit, que dis-je, le devoir pour la sécurité de nos enfants. Toute la ville a aimé cela. Nous avons même prié pour que cela ne prenne pas fin trop vite.
Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Thank you.
Aujourd'hui, lorsqu'il m'arrive encore d'aller sur le port ou au marché, ces moments se font rares tant la compagnie des hommes m'est insupportable. Que dis-je, la compagnie ? Leur simple vision. Aujourd'hui donc, je ne vois que laideur. Ils le cachent et font comme si rien n'avait jamais eu lieu, mais dans leur visage lourd et débonnaire de commerçant, je retrouve les sourires de cette nuit-là. Je sais de quoi nous avons été capables. Je sais ce qui est en nous. Cette jubilation, nous l'avons laissée s'emparer de nous pour une nuit, pensant ensuite pouvoir la congédier, mais elle est là, tapie dans nos esprits désormais. Elle nous a fanés. Et si personne n'en parle, c'est parce qu'il faut bien faire semblant de vivre. C'est pour cela qu'ils me détestent. Je leur rappelle sans cesse cette nuit. Alors ils peuvent bien cracher sur mon passage, cela n'y change rien. Je n'étais pas seule cette nuit-là, et je sais que le plaisir de la sauvagerie, nous l'avons tous partagé. Nous avons arpenté les rues avec nos torches, le bruit de nos sabots sur les pavés résonnait avec le son sévère de l'autorité. La ville se mit à grouiller de plusieurs rumeurs. On en avait vu un près de la porte Saint-Louis, un autre sur les toits du marché couvert. C'étaient des géants aux dents qui brillaient dans la nuit. Même nous qui connaissions ces nègres pour les avoir eus sous nos pieds pendant 3 semaines de traversée, même nous qui savions qu'ils n'avaient rien de géant, mais étaient secs et épuisés comme des fauves en captivité, nous laissions dire. Les hommes avaient besoin de cela. Il fallait que croisse la démence pour que nous sortions de nous-mêmes. Le premier fut abattu 1 heure à peine après le début du couvre-feu. Le coup de mousquet fit sursauter les rats des ruelles. Il avait été trouvé face au grand baie, sur le point de traverser à la nage pour fuir la ville. De toute façon, il se serait noyé, mais on lui tira dans le dos, puis on le ramena jusque devant la cathédrale pour que chacun puisse voir à quoi ressemblaient ces nègres. Plus tard, un autre fut bastonné par des paysans qui le trouvaient recroquevillé dans un coin de la rue de la Piquiboie. Il avait dû faire une chute car il ne bougeait plus. La cheville fracturait peut-être. Les gardes se jetèrent sur lui et avec jubilation, ils lui brisèrent les os sans qu'il eût le temps de râler sur le pavé. Le troisième, je le ramenai vivant moi-même. Je le trouvai dans la cave d'un tonnelier, terrorisé, tremblant de faim. Je le traînai par les cheveux jusqu'à la place de la cathédrale. Je le montrai à la foule, je le forçai à s'agenouiller et je lui tranchai la gorge. Nous avons aimé ce spectacle. Chacun de nous a ressenti au plus profond de lui que c'était ce qu'il fallait faire cette nuit, tenir la bête à ses pieds et l'immoler. Aujourd'hui que j'y repense, je mesure combien nous étions loin de nous-mêmes. J'aurais dû tout faire pour garder ce nègre vivant. J'avais fait le plus difficile. Je n'avais plus qu'à le ramener au navire et à le plonger à fond de cale avec ses congénères. J'en aurais tiré un bon prix, mais non. Cette nuit-là, il fallait du sang. À moins qu'au fond, ce ne soit le contraire. À moins, oui, que nous n'ayons jamais été aussi proches de nous-mêmes que cette nuit-là, acceptant pour un temps les grondements de notre être comme seul souverain. La décapitation du nègre souleva une vague de folie. Tout le monde savait qu'il n'en restait plus qu'un et chacun voulait être celui qui l'attraperait. À l'instant où le corps du supplicié tomba à mes pieds mollement comme un sac vide qui vient soupirer au sol, un cri lointain monta des toits de la ville. C'était lui là-bas, le dernier nègre échappé, qui appelait. Il devait se préparer au combat, invoquer les esprits de son peuple ou nous maudire. C'était lui, le dernier nègre là-bas, qui nous défiait. Nous cherchâmes partout, scrutant chaque mètre de ces rues obscures où les chats affolés nous faisaient sursauter. Nous fouillâmes chaque cave. Des hommes descendaient dans les souterrains qui allaient jusqu'au port. La lueur de leurs torches faisait danser les flaques d'eau croupissante. D'autres montaient sur les toits de la ville, une vraie battue lente et systématique. Nous ne ménageâmes pas notre peine. Mais rien. Pas d'autre bruit que celui de notre propre agitation. Pas d'autre silhouette que celle de nos corps qui s'épuisaient à fouiller les entrailles de la ville. Au petit matin, la plupart des hommes rentrèrent chez eux. Nous, non. Il ne fallait laisser aux fugitifs aucun répit. Une nouvelle idée était née en moi. Combeck, sur mon ordre, fit descendre 10 nègres du navire. À chacun d'entre eux, il passa une épaisse chaîne autour du cou. Nous prîmes chacun le nôtre comme un chien que l'on va promener et nous nous dispersâmes dans la ville. Le son des chaînes sur le pavé annonçait à tous notre arrivée. Nous ne faisions que marcher. L'esclave, lui, devait appeler sans cesse le fugitif, lui répéter qu'il valait mieux se rendre, qu'il ne serait pas fait de mal, que c'était fini, qu'il ne pourrait pas aller bien loin. À la fin de la journée, nous étions toujours bredouilles. Les autorités de la ville me convoquèrent. J'essayais de leur démontrer que le fugitif ne pouvait être que mort. Il avait dû se terrer dans un coin, les chiens le retrouveraient lorsqu'il se mettrait à sentir. Ils ne me crurent pas et décidèrent d'établir une garde de nuit pour être certain que le fugitif, s'il vivait, ne puisse pas créer d'incident. Nous prîmes notre tour de garde pour cette deuxième nuit de traque, comme sur un navire, les uns après les autres, patrouillant mollement sur la place de la cathédrale ou le long des murailles. Nous étions persuadés que tout était fini. Je passais la nuit à laisser défiler en mon esprit les images de la chasse de la veille. Tous ces hommes au visage défigurés par tant d'excitation. Ce fut là, au milieu de cette seconde nuit d'attente, que j'entendis le cri de Kermarec, près de la porte Saint-Pierre. Il appelait avec force. Je courus dans sa direction, persuadé qu'il allait falloir se battre, mais dès que j'aperçus Kermarec, dès que je le vis, pâle comme un linge, les lèvres entr'ouvertes, me désignant de la main la porte d'une maison, je sentis que le nègre n'était pas mort et que c'était à son tour de jouer avec nous. Sur la porte, il y avait un doigt, cloué au bois, un doigt noir, encore saignant, accroché là, comme un porte-malheur. Comment était-ce possible? Nous restâmes stupéfaits. Les mêmes questions tournaient dans notre esprit sans que nous ayons besoin d'échanger un mot. Pourquoi s'était-il coupé un doigt? Était-il armé? Où avait-il trouvé ce clou? Que voulait-il? Pendant longtemps, nous restâmes face à cette énigme, puis enfin, nous retrouvâmes nos esprits et prévînmes les autres. Les troupes furent regroupées, les torches rallumées, on refit une battue, puis une autre, rien. Un médecin examina le doigt et fut formel, il s'agissait de l'auriculaire de la main gauche. Le fugitif essayait peut-être de nous faire peur. Il ne fallait pas se laisser impressionner. Mais malgré ce que nous essayions de nous dire pour nous rassurer, chacun de nous était terrifié par ce doigt amputé. Les jours suivants, la chasse reprit. Les gardes avaient maintenant l'habitude, mais rien, sinon le vent, ne vint déranger le calme de nos rues endormies. Les autorités de la ville finirent par décréter une fouille systématique de tous les souterrains. Nous y passâmes des heures, découvrant des boyaux où nul d'entre nous n'était jamais allé. Nous marchions avec la pénible certitude que cela ne servait à rien et que ce n'était pas ici que nous le trouverions. Le soir, lorsque nous remontâmes bredouille de notre expédition souterraine, la ville était à nouveau dans une excitation inhabituelle. On venait de retrouver un autre doigt, cloué, comme le premier, sur une porte. Un index, d'après le médecin. Le plus extraordinaire, ce qui fit véritablement frissonner les badauds, c'est que le doigt avait été cloué sur les battants de la porte de l'hôtel particulier de l'armateur. Celui-là même qui avait affrété notre bateau. Comment le nègre avait-il su? Les rumeurs coururent en tous sens. La panique saisit véritablement la ville lorsque, le soir même, la fille de l'armateur, une gamine de 8 ans, fut écrasée par une calèche. Personne ne put s'empêcher de faire le lien entre les deux événements. Le doigt avait appelé le malheur. Le ciel, désormais, nous regardait avec menace parce que nous lui faisions horreur. Les semaines qui suivirent furent rythmées par les patrouilles de nuit qui ne trouvaient aucune autre âme vivante dans les rues que celle de marins ivres ou de chats tentant de se protéger de la pluie. Régulièrement, nous découvrions un nouveau doigt. Des portes étaient maculées de sang. Le nègre, quelque part, continuait de se couper des doigts et de les déposer çà et là comme un défi cannibale. Les maisons étaient toujours choisies avec le même à-propos, celle de la veuve du capitaine, celle du chef de la capitainerie, celle du duc, comme s'ils savaient qui était qui et où résidait chacun. Comme s'ils voulaient désigner au ciel la faute de chacun de ces hommes. Il nous maudissait et le doigt de Dieu était sur nous. Chaque fois, ses doigts furent accompagnés d'un malheur. La femme du duc fit une fausse couche. Le chef de la capitainerie fut l'objet de violentes crises de fièvre dont personne ne comprenait l'origine. Ces coïncidences firent trembler le peuple et la même question se mit à tourner sur tous les étals de marché. Qui serait le prochain ? Il me semblait, moi, que la ville s'était mise à vivre et qu'elle avait entrepris de nous perdre. Elle était l'alliée du fugitif et lui offrait son ombre pour qu'il continue à s'y dissimuler. Ce sentiment depuis n'a fait que croître. Aujourd'hui, des années plus tard, je sais qu'elle m'épie. Les murs me regardent, les pavés des rues ricanent à mon passage. Les maisons ont des doigts, des yeux, des bouches qui m'insultent. Elle vit tout autour de nous et je sais qu'elle ne me laissera pas en paix. Tout m'observe et conspire. Le sixième doigt fut trouvé devant la porte de la résidence de l'archevêque. C'est ce jour-là que nous embarquâmes. L'escale à Saint-Malo n'avait que trop duré, il fallait poursuivre. Aller vendre aux Amériques nos cargaisons de bois d'ébène, revenir les cales pleines de denrées rares et faire couler l'argent à nouveau. Au fond, je peux l'avouer maintenant. J'ai hâté le départ ce jour-là car la peur m'avait saisi. J'étais persuadée que je serais le prochain. Je voulais partir au plus vite pour tout laisser derrière moi et que le nègre choisisse d'autres victimes. Qu'il désigne les quatre derniers coupables tandis que je serais sur la mer avec mes hommes, loin de tout. J'ai fui comme un lâche devant ce malheur que j'avais moi-même apporté. Tout le monde fut, je crois, soulagé de lever l'ancre. Cet arrêt à Saint-Malo nous avait rendus fous. Nous fûmes heureux de reprendre la mer, d'effacer ces nuits de traque et de laisser derrière nous le nègre manchot. J'ai su bien plus tard ce qui s'était passé après notre départ. 2 semaines après notre embarquement pour l'Amérique, le 10e doigt fut trouvé devant la porte principale de la ville. Étrangement, la découverte de ce 10e doigt soulagea les habitants. L'éparpillement allait cesser. Et effectivement, jour après jour, semaine après semaine, la tension baissa. Il n'y avait plus rien d'étrange à signaler. La ville reprit vie et le commerce ses droits. Le fugitif était peut-être encore là, mais on ne s'en souciait plus. Et d'ailleurs, comment aurait-il pu être encore là, sans manger ni boire, avec ses 2 moignons sanguinolents ? Non, le plus probable était qu'il était mort maintenant ou qu'il s'était évaporé comme une ombre.
Whatever way the same, nothing according to plan. If I could just see clear into you, the same face every day, the sirens calling away. This means so much more. The floating boat is carrying. Story differently. The greedy siren shooing all around me.
Nous naviguâmes pendant des mois. Personne à bord ne parla jamais de ces événements, mais nous avions beau nous le cacher les uns aux autres, nous avions beau nous mentir à nous-mêmes, nous étions devenus des vieillards usés que le moindre craquement de bois faisait sursauter. Je jure que ce que je dis est exact. Et ne vous arrêtez pas à mon état maladif pour juger de mes propos, à la façon dont mes yeux roulent et dont ma voix s'emballe et se casse. Je suis fou aujourd'hui, mais je ne l'ai pas toujours été. Je me souviens encore d'un temps où j'étais ce que les femmes de chambre appellent avec envie un gaillard. La tête bien posée, l'esprit clair, les mains sûres et le corps vigoureux. Un gaillard qui balayait du revers de la main les comptes pour bonne femme. La vie s'amuse avec moi. Elle me ronge sans m'engloutir tout à fait. Elle veut me faire durer. C'est un long supplice qui viendrait à bout des plus solides. Je suis fou allié, oui, mais je n'oublie rien de ce qui m'a fait chavirer et je dis ce qui fut. Si je vous disais que j'ai vu un chat à deux têtes ou une chienne mettre bas un rat, il faudrait me croire, car ces choses-là arrivent. Elles sont si étranges qu'elles font perdre la raison à ceux qui en sont témoins, mais ils ne les inventent pas parce qu'ils sont fous. Ils sont fous de les avoir vues. La nuit où nous arrivâmes à nouveau dans le port de Saint-Malo, après plusieurs mois d'absence, tout bascula. À peine mîmes-nous pied à terre, heureux de fouler à nouveau le pavé de chez nous, que nous nous dirigeâmes vers un estaminet avec la ferme intention d'étancher notre soif. Nous bûmes énormément, d'abord en chantant comme des jeunes gens, puis dans un silence de tombe, chacun face à sa pinte, jusqu'à nous assommer d'alcool et n'être plus rien. Je suis rentrée chez moi en m'accrochant au mur des maisons pour ne pas tomber et en traînant mon sac d'une épaule fatiguée. Lorsque je parvins devant chez moi, je mis du temps à trouver ma clé et ce n'est que lorsque j'essayais de la rentrer dans la serrure que je le vis, là, sur le bois de ma porte, un doigt, à nouveau, un onzième doigt. À cet instant, je sentis mon corps se dérober et mon esprit lâcher prise. Cela était impossible. 11 doigts. Aucun nègre ne pouvait avoir 11 doigts. Je devenais fou. 11 doigts. Je n'ai pas crié. Je suis resté longtemps assis sur le pavé, les yeux fixés sur la porte. Je n'osais ni m'approcher, ni m'enfuir. J'ai mis longtemps à trouver le courage de me relever, de décrocher le doigt, de l'enfouir dans un mouchoir et de rentrer chez moi. Je n'ai jamais rien dit à personne. Je ne sais pas pourquoi. Si j'avais parlé, si j'avais appelé mes voisins et réveillé tout le quartier, peut-être aujourd'hui ne me considérerait-on pas comme un fou. Mais je ne le pouvais pas. J'avais honte. Ce doigt-là, sur ma porte, j'avais honte. Depuis ce jour, les questions n'ont pas cessé de tourner en mon esprit. Combien allait suivre encore? Pendant combien de temps continuerait-il à s'amputer? Il avait vécu durant tout ce temps. Il avait glané de la nourriture. Il s'était caché de la lumière. Il avait patiemment amputé ses membres et maintenant il continuait et savourait l'effet que ça produisait sur nous. Il avait attendu notre retour, des mois de silence, jusqu'à ce que nous soyons là à nouveau. Ce 11e doigt était pour moi. Mais comment était-ce possible? À moins qu'il n'ait la faculté de repousser. C'était cela. Il devait s'agir d'un monstre. Cela serait sans fin. Il les couperait éternellement pour se rappeler à notre bon souvenir, puis à celui de nos enfants, de nos petits-enfants. Le nègre échappé allait vieillir avec la ville. Dans 10 ans, dans 100 ans, il serait encore là, riant sur nos tombes et harcelant encore nos lointains descendants. Je me souviens qu'avant de me relever cette nuit-là, je me suis agenouillée dans l'eau du caniveau et j'ai pleuré comme un damné. J'étais terrifiée. Je ne contrôlais plus mes nerfs. L'idée qu'il était là, quelque part, qu'il me contemplait peut-être, me terrassa. Depuis cette nuit, je ne suis plus un homme. Je suis une ombre esquintée. J'ai maigri. Je n'ai plus jamais mis le pied sur un navire. Je vis chichement, je souris, je tremble. Je me retourne souvent dans la rue. Il me semble l'avoir sans cesse sur mes pas. J'attends le malheur que le doigt m'a annoncé, mais au fond il est déjà sur moi et m'a rongé avec délice. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Je ne navigue plus ni ne gagne d'argent. J'attends. Ne riez pas de moi. Je pourrais partir, bien sûr, tout quitter et mettre le plus de distance entre la ville et moi. Je pourrais essayer d'échapper à son regard, à sa voix. Cette ville me fait horreur. Je sais qu'elle lui appartient désormais, qu'il y règne. Je sais que lorsque le vent dans les persiennes m'insulte, c'est parce qu'il lui a demandé de le faire. Je sais que lorsque les pavés me font trébucher, c'est parce qu'il les a déplacés. Mais il m'est impossible de partir. Je ne peux pas. Il faut que j'aille au bout. Et le fait qu'il ait déjà gagné en me rendant fou, le fait que je ne sois qu'une peau vide et un visage creux qui attend de finir n'y change rien. Il faut que tout s'achève et que ce soit ici. Alors je continue à vivre. Je courbe le dos en marchant. Je sais que l'on me suit, la pluie me cherche, les oiseaux se moquent de moi. Ne riez pas. Ne croyez pas non plus que je me repente. Rien ne me lavera de mes fautes. Je ne demande aucune rédemption. Je suis laid, je le sais. Les hurlements que les nègres poussaient en voyant disparaître l'île de Gorée me reviennent en mémoire. J'ai peur, je grelotte, je me demande combien de temps cela durera. Je vis avec la terreur d'apercevoir un nouveau doigt. Je sais qu'il y en aura encore jusqu'à la fin, je le sais. En attendant, la mort ne vient pas. Elle me laisse à mon supplice. Je me demande chaque jour combien de temps cela durera. Je vieillis. De jour en jour, de saison en saison, d'année en année, je vieillis atrocement. L'horreur.
Eh bien, merci pour cette nouvelle, Catherine.
Ah oui, oui, tu vois, j'étais encore dans...
C'est vrai que c'est un texte particulièrement
fort.
C'est particulièrement fort, mais Laurent Godet a l'habitude d'écrire des choses...
Oui, alors là, c'est sur la traite des nègres, mais il a beaucoup écrit sur... notre actualité, qui peut être aussi très forte et très violente.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ce texte qui, j'en suis sûr, ne laissera pas nos auditeurs indifférents. Et rendez-vous au mois prochain.
Avec un texte plus gai.
Avec un texte plus gai, peut-être.
D'accord.
On verra avec le retour d'Hervé. Eh bien, au mois prochain. Au revoir, Catherine.
Au revoir.
Et à bientôt, tout le monde. Give a little bit.
Don't